Restez à l'écoute, voici le journal de Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les armes françaises sont-elles à l'origine de victimes civiles au Yémen? C'est ce que montre une enquête de Radio France et du collectif Disclose. Rien ne permet de le dire, répond ce matin Florence Parly, la ministre des Armées, invitée de nos confrères de Radio Classique tout à l'heure.
Ce que j'entends dire, c'est que nous serions à l'origine donc et nous porterions une responsabilité en termes de pertes civiles. Moi, je voudrais simplement dire que, à ma connaissance, ces armes ne sont pas utilisées de façon offensive dans cette guerre au Yémen, qu'on ne peut donc pas, de façon mécanique, en tout cas moi je n'ai pas d'éléments de preuve permettant de dire cela, que les armes françaises sont à l'origine de victimes civiles au Yémen. Ce que je peux en revanche rappeler, c'est que nous avons un dispositif de contrôle des exportations d'armement qui est extrêmement rigoureux. Je comprends tout à fait que l'opinion publique soit très sensibilisée à la situation humanitaire qui prévaut au Yémen. Tous nos efforts et tous les efforts de la communauté internationale sont orientés pour essayer d'arrêter ce conflit et de lui trouver une solution politique.
La ministre des Armées Florence Parly, les révélations de la cellule Investigation de Radio France qui contredisent ce discours officiel sont à retrouver sur franceculture.fr. Ils sont attendus en héros à l'Élysée. Les pompiers mobilisés pour éteindre les flammes de Notre-Dame de Paris sont reçus par Emmanuel Macron à midi. Il y a 3 jours, ils sont venus à bout de cet incendie ravageur et se posent depuis la question de la reconstruction du monument. Le Premier ministre lance un concours international d'architectes, annonce un soutien fiscal aux dons et un projet de loi pour une souscription nationale. Un gardien de cette rénovation est par ailleurs nommé Nathalie Hernandez et c'est Jean-Louis Georgelin.
À 70 ans, le général d'armée Jean-Louis Georgelin, qui a quitté les armées il y a maintenant 9 ans, Jean-Louis Georgelin reprend du service. Je n'ai que l'âge du général de Gaulle lorsqu'il est revenu au pouvoir. Alors si le pays a besoin de moi, avait déclaré l'ancien chef d'état-major des armées lors de son départ de l'ordre de la Légion d'honneur en 2016. Un appel qui a donc été entendu par l'exécutif. Et sans rancune, même si le général Georgelin n'avait pas mâché ses mots chez France Culture en juillet 2018, un an après le départ de son collègue, le général de Villiers.
Ce qui va rester de cette affaire, ce que l'on appelle dans le jargon militaire une faute de commandement. Et ce qui reste, à mon sens, dans les armées aujourd'hui, c'est véritablement cette agression verbale du président de la République sur le chef d'état-major des armées.
Oubliez la faute de commandement, ce Saint-Cyrien érudit, qu'on dit très croyant, sera ainsi chargé d'une mission spéciale pour surveiller le déroulement des travaux à Notre-Dame. Chef d'état-major particulier sous Jacques Chirac, puis des armées sous Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Georgelin connaît les rouages de la politique. Il est connu aussi pour son franc-parler. Le commandement et la discipline seront sans nul doute les deux autres qualités qui l'aideront dans cette tâche titanesque.
Le représentant du Vatican en France a été entendu par la police. C'est arrivé à sa demande il y a quelques jours. Le nonce apostolique visé par une enquête à Paris pour agression sexuelle n'a pas attendu la levée d'immunité diplomatique demandée par le parquet de Paris. Il était sur le point d'être arrêté. Il s'est donné la mort juste avant. L'ancien président péruvien Alan Garcia s'est suicidé hier à Lima. La police venait le chercher pour le placer en détention provisoire dans une affaire de blanchiment d'argent présumé liée au scandale Odebrecht. C'est officiel, Benjamin Netanyahou est chargé de former une coalition pour gouverner. Décision du président israélien hier soir, une semaine après les législatives. Le Premier ministre sortant semble pour cela le mieux placé, Étienne Monin.
Théoriquement, le Premier ministre peut dégager une majorité de 65 sièges sur 120. Il devrait s'appuyer au total sur 6 partis considérés comme son propre camp ou ses partenaires de droite. Le Likoud domine très largement ce bloc avec 35 sièges. Les ultra-orthodoxes représentent une force importante. Les deux partis ultra-nationalistes ont une surface limitée, mais leur influence pourrait compter. Pour assembler cette majorité, Benjamin Netanyahou devra gérer une contradiction importante entre le groupe religieux et le parti laïque d'Avigdor Lieberman. Cette alliance suscite aussi des inquiétudes sur la préservation de l'état de droit. Les projets évoqués pendant la campagne sont agressifs vis-à-vis de la Cour suprême et de la solution à deux états. Hier soir, le président d'Israël a déclaré qu'il était temps d'arrêter de se combattre au sein même du pays. Il a estimé que la campagne électorale était allée trop loin, qu'il était inutile de dresser des murs entre les Israéliens. La cohérence et la solidité de la nouvelle majorité sera très vite testée. Deux échéances audiences sont déjà annoncées. D'abord, les poursuites judiciaires contre Benjamin Netanyahou, qui pourrait être d'ici quelques mois un premier ministre mis en examen. Et ensuite, le plan de paix de Donald Trump, qui pourrait être enfin dévoilé en juin après le ramadan.
Du soleil pour tout le monde, ou presque. Le sud-ouest devrait passer la journée sous les nuages, peut-être avec quelques gouttes. Ailleurs, il fait plutôt beau et chaud, de 17 à 24 degrés cet après-midi. Mais avant ça, vous avez rendez-vous à midi et demi pour le prochain journal avec Thomas Cluzel.